La question de l'autorité, hein, j'avais commencé il y a 15 jours, vous parlez de l'autorité. Est-ce que vous vous rappelez ce que ça représente l'autorité, ce qu'on pourrait donner comme définition de l'autorité? Quelqu'un veut le dire, dites-le. Pardon? Voilà, c'est le droit de commander et de se faire obéir. C'est l'autorité. Ah oui, je pensais juste nos bien-aimés, donc Sandrine et Peter, qui sont officiellement mariés civilement. Ils se sont mariés samedi dernier à la mairie. Voilà, on les applaudit. Voilà. Donc maintenant que personne ne... Comment ça se dit le verset ? Ne sépare, voilà, ce que Dieu a uni. Voilà, que vous soyez bénis dans votre mariage. Amen. Donc, l'autorité, c'est le droit de commander et d'être obéi. Voilà. Et le pouvoir, c'est quoi, Bruno, puisque tu as la parole ? Pardon ? Voilà, c'est le moyen d'exercer. C'est la capacité d'exercer l'autorité. C'est la faculté, si vous voulez, de pouvoir exercer cette autorité. C'est être en état de pouvoir exercer cette autorité-là. Donc autorité et pouvoir sont bien des choses différentes. Et concernant l'autorité, qu'est-ce que dit Romains 13, verset 1er ? Que toute autorité vient de Dieu. Voilà, donc toute autorité vient de Dieu. Voilà, donc comme l'autorité c'est le pouvoir de commander et d'obéir, c'est vrai que Dieu a la primeur, c'est l'autorité suprême, ou ultime si vous voulez, ultime c'est quand il n'y a plus aucune autorité, c'est lui qui l'a, et suprême c'est celle qui est au-dessus de tout, voilà, et heureusement c'est Dieu qui est créateur. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a créé l'univers, etc. Donc c'est Dieu qui est en autorité et qui établit toute autorité. On peut dire d'une autre manière que l'autorité est hiérarchique. Pourquoi ? Parce que le terme hiérarchique, c'est composé de deux noms grecs. Hieros, c'est sacré, et arché, c'est premier. C'est le chef, si vous voulez. Dieu est le chef. C'est lui qui est la tête de toute chose, qui est créateur de toute chose. Et il met des personnes en autorité. Et la première personne qu'il a mis en autorité, c'est qui ? C'est son fils. C'est Jésus. D'abord, avant l'homme, c'est Jésus. Voilà. Dans l'ordre hiérarchique. Hein. Dans l'ordre hiérarchique. Il a tout donné. Toute autorité, est-il écrit, a été donnée à Jésus. Après la victoire sur la croix, après la résurrection, il a été élevé au-dessus de toute chose. Et c'est lui qui est en autorité sur toute chose. Mais il va redonner cette autorité à Dieu, son Père, à la fin des temps. Fin, vous savez, Dieu est hors du temps, on ne sait pas quand ça sera, on ne peut pas dire à quelle date. Mais à la fin des temps, il redonnera cette autorité à son Père. On voit que l'autorité, on est dans une fonction, dans un office, si vous voulez. Et Jésus a tenu les trois offices qui sont... Ah. Il a tenu les trois offices qui gouvernent une société, hein, qui est l'office de roi, l'office de prophète et l'office de prêtre, sacrificateur. Voilà, les trois offices qui ont été établis par Dieu, hein, donc les trois fonctions dans le peuple d'Israël, dans nous aussi, nous sommes dans ces offices, mais c'est lui le grand sacrificateur, le grand prêtre, c'est lui le prophète qui parle de la part de Dieu, et c'est lui le roi qui règne sur toute chose. Donc Jésus est en autorité, et sur la terre, au niveau des créatures, cette fois-ci, il a mis l'homme en autorité, sur tous les animaux, sur toute la création, etc. C'est le récit de Genèse. Voilà. Donc l'autorité, c'est le droit de commander, il a le droit, mais c'est aussi une responsabilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'écologie met en avant le risque qu'on a de ne pas laisser à nos enfants une planète qui va leur permettre de vivre décemment, correctement. Et donc c'est aussi une responsabilité, c'est une fonction d'autorité, mais qui représente une responsabilité. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Le Saint-Esprit a été donné à Jésus au moment du baptême. Jésus, quand il est venu sur terre, donc en tant qu'homme, et s'est incarné, il n'avait plus... il avait la double nature, fils de Dieu, fils de l'homme. Mais en tant que fils de l'homme, il a dû recevoir une puissance pour exercer l'autorité de la mission qu'il a reçue, puisqu'il devait nous sauver, il devait porter nos péchés à la croix, il devait expier cette faute que Adam et Ève ont fait quand ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Et Jésus a reçu le Saint-Esprit pour exercer l'autorité. Il ne pouvait pas le faire sans ce pouvoir. Il devait recevoir le pouvoir pour obéir à Dieu, pour chasser les démons, pour guérir la maladie, etc. Vous voyez, donc le pouvoir est quelque chose qui complète l'autorité. Et là, on voit déjà que ce n'est pas Montesquieu en France ou John Locke en Angleterre qui ont inventé la séparation des pouvoirs. Déjà, dans la Trinité, il y a une séparation des pouvoirs. C'est pour ça que, effectivement, quand nous, en tant que gouvernance, on sépare les pouvoirs pour éviter la tyrannie, eh bien déjà Dieu le modèle, puisque le Père a le pouvoir de création, le Fils a le pouvoir de remplir la mission, et le Saint-Esprit a le pouvoir de la vie, et c'est lui qui a donné la force, la vie, et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et les trois fonctionnent ensemble, c'est pourquoi la Trinité constitue un modèle de fonctionnement. Alors on va voir cette autorité dans une application qui est très polémique au niveau des chrétiens, parce que voilà, on accuse Paul parfois, etc. Alors on va le lire dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1er. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie, qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme est tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu. Voilà. Alors, j'ai pas pris un texte simple, mais bon, il est dans la parole de Dieu, donc et je voudrais l'utiliser comme exemple de compréhension de l'autorité. Alors je vais faire un petit sketch là pour vous aider à comprendre. Tiens, tu me tiens juste le micro. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déchiré une feuille en deux. Voilà. Si je veux remettre en état cette feuille, il faut que je retrouve l'autre moitié. D'accord? Voilà. Quel est le nom de ce que je viens de faire là? Pardon? Symbole. Merci Charles. C'est un symbole. Si je cherche l'autre morceau, oui, ça veut dire que je cherche quelle est la signification du symbole? Qu'est-ce qui signifie ce symbole? Voilà. Et il y a un secret quelque part. Hein, je peux trouver un tas de d'autres feuilles, mais si ça correspond pas, j'ai pas trouvé le symbole. Et le symbole, il trouve son explication quand je cherche et je trouve l'autre morceau. Voilà. Ah voilà, c'était Tom qui l'avait. Donc je cherche. Je le mets. Non, c'est pas ça. Ah, attends, peut-être ça. Waouh, ça marche. Ouais. C'est ça un symbole. Ouais. Pour dire que chez les chrétiens, il y a des gens qui interprètent littéralement ce qu'on vient de lire, voilà, et les cheveux, il faut que les femmes aient les cheveux longs, etc. Il ne faut pas qu'ils les coupent, etc. Donc, ça s'appelle une lecture littérale. Okay. C'est vrai pour la Sainte-Seine aussi. Hein. Il y a une lecture littérale qui consiste à croire que voilà, Jésus est dans le morceau de pain ou dans le vin. Et il y a l'explication symbolique. C'est-à-dire qu'elle renvoie, vous voyez, là ce que je vois ici, c'est sur la terre, et ça, c'est une réalité dans le ciel. Donc c'est symbolique. Ça veut dire que quand j'ai compris où est la partie cachée de cette partie-là, eh bien, je peux réellement comprendre la parole de Dieu. Mais vous voyez bien que c'est pas de la magie. C'est simplement de comprendre le symbole, bien sûr par révélation. Souvent, c'est par révélation, mais aussi c'est par l'intelligence du texte et de son contexte et de l'ensemble de ce que dit la parole concernant ce sujet-là. Le sujet dont il est question, c'est l'autorité de l'homme et de la femme. Quelle est la place de l'autorité dans un couple, par exemple, dans une famille? Alors, je ne vais pas aborder la question de la famille, mais je vais rester dans la notion du couple. Pourquoi Paul, il prend tous ces versets, verset 16, pour expliquer ça, sachant qu'il y a d'autres passages que je ne prends pas aujourd'hui, comme à Timothée 2,15, etc., qui parlent aussi de cette autorité. Je vais juste lire un autre passage qui complète ce passage-là, qui dit la même chose, c'est Éphésiens, chapitre 5, verset 23. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent à chacune à son mari, Marie aimait chacun autre femme, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même afin de la sanctifier après l'avoir purifiée. » Le passage que j'ai lu tout à l'heure, complété par celui-là, il est très mal interprété et ça a donné lieu à l'abus de l'autorité de l'homme sur la femme depuis des millénaires. Donc où la Bible raconte n'importe quoi parce qu'enfin elle amplifie cet abus, ou alors il y a quelque chose de secret qu'il faut comprendre. Et je voudrais vous faire comprendre ce secret qui, une bonne interprétation, prend toute une autre dimension. Si je prends le passage du verset 10, c'est pourquoi. Oui, je reste dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc ça, c'est le terme autorité, exousia, dont on a parlé tout à l'heure. Comme je vous le disais, des chrétiens ou des chrétiennes, parce que les chrétiens poussent les chrétiennes à obéir à ça, eh bien, ils ont un voile sur la tête. Vous voyez, ce matin, il n'y a personne qui a de voile. Mais il y a des églises dans lesquelles vous ne pouvez pas, en tant que femme, venir sans le voile. Ça, c'est une lecture littérale. Voilà. Or, ce n'est pas du tout ce que Paul veut dire. Il se trouve que le voile, à l'époque de Paul, avait une signification lui-même. Et ce voile, c'est parce que, d'une part, la femme pouvait porter un voile où les longs cheveux servaient de voile. D'ailleurs, il le dit dans un petit peu plus loin, dans verset la nature elle-même n'enseignait-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux et que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Donc, à l'époque de Paul, cette signification c'est donc qui renvoie de cette image, je vais porter le voile, avait du sens dans la société. Et le sens, c'est que à l'époque, les femmes qui étaient libérales, c'est-à-dire qui ne respectaient, voulaient pas respecter l'autorité, qui voulaient être voilà dans le libéralisme, on appelle le libéralisme, c'est-à-dire aller à l'encontre des codes de la société, eh bien, se rasaient. Elles se rasaient, et d'ailleurs toutes les prostituées étaient rasées. Donc du coup, vous pouvez connaître dans la rue, dans la société, les femmes qui rejetaient le code social qui était admis et qui étaient en rébellion. Donc c'était ça. Je vous pose une question. Aujourd'hui, quel est le signe distinctif du mariage, le symbole du mariage aujourd'hui, qui est visible? L'alliance, voilà. Mais c'est récent. Hein. Je crois que c'est en 1800. Enfin là, je suis désolé, j'ai pas eu la date exacte de l'invention de l'alliance. Mais avant, c'était autre chose. L'Ancien Testament, c'était vous preniez la chaussure et vous partiez sans une chaussure. Je sais plus, voilà. C'était aux portes, ils mariaient, etc. Après, il y a eu d'autres signes qui étaient utilisés pour montrer à la société que deux personnes se sont mariées et ont un statut de marié. Aujourd'hui, c'est l'alliance. Donc vous voyez, le mariage a toujours existé, mais le signe qui renvoie au mariage peut changer. Donc il faut bien voir quelle est la représentation du signe visible. À l'époque, quand les femmes venaient dans les assemblées de l'Église et qu'elles étaient rasées, qu'elles n'avaient pas de cheveux, ça veut dire qu'elles étaient rebelles. Hein. Elles ne voulaient pas de code de la société. Et donc là, Paul dit non, on ne veut pas des gens rebelles, on veut des gens qui puissent accepter l'autorité de Dieu qui, lui, a créé les choses dans un certain ordre, l'ordre de Dieu. Or, l'ordre de Dieu, dans la Genèse, et on le sait, c'est Dieu créa l'homme. Il créa l'homme. Et il tira la femme de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, c'est-à-dire un ordre qui vient de Dieu, donc sacré. Hiérarchie se renvoie à sacré, ce que Dieu fait. Hein. Dieu, il a fait dans la création d'abord l'homme et ensuite la femme. Voilà. Ça, c'est l'ordre créationnel. Hein. On a parlé de voiture tout à l'heure, voilà, quand quelqu'un a cherché à mettre de l'essence dans du diesel ou la mer, c'est vrai que une voiture est faite pour un certain carburant. Donc vous pouvez changer l'ordre, mais vous risquez d'avoir des problèmes ensuite pour le faire marcher. Là c'est pareil, si moi je crois à l'autorité que Dieu a créé toute chose, eh bien cet ordre-là permet de vivre selon ce que Dieu a prévu, et les choses marchent bien. Ceci étant, si vous lisez le texte que j'ai abordé tout à l'heure, mais que j'ai pas lu en totalité dans Éphésiens, le rôle de l'autorité, le rôle de chef, si vous voulez, celui qui est avant l'autre, il est très très difficile pour l'homme, hein, puisqu'il doit donner sa vie à sa femme. De la même manière que Jésus a donné sa vie à l'Église. Jésus avait une mission. Il n'est pas venu voilà, au Club Med, hein, sur la terre. Il est venu pour donner sa vie. Et il le dit dans un autre passage, il a décidé de le faire. Bien sûr, son père lui a proposé, parce que son père a cherché un homme qui puisse effacer cette dette du péché. Et comme il n'a trouvé personne, c'est son fils qui s'est présenté. Là, vous l'avez le récit dans la Bible, il s'est présenté en disant, voilà, je suis là, et je suis prêt à accomplir cette mission. Donc, vous voyez, l'initiative du fils, c'était de se présenter à son père avec une mission, et cette mission, c'était à lui de l'accomplir. Eh bien, ça, c'est l'ordre de Dieu, et ensuite, après, la Bible dit que Dieu a créé la femme pour pas que l'homme soit seul. Donc il l'a créée comme un vis-à-vis, comme elle est égale à l'homme, sauf qu'elle a une autre fonction, qui est la fonction de répondre. Et là, on rentre dans l'amour. Hein. L'amour ne peut pas se faire à deux, parce que sinon elle est fusionnelle. L'amour ne peut se faire qu'à trois. Le véritable amour qui se donne, Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est quand le Père, eh bien, il aime le Fils et le Fils aime le Père. Et le Fils, il donne sa vie, mais comme il l'a donnée, il l'a plus. Eh bien, le Saint-Esprit lui redonne par le Saint-Esprit. Et donc, il y a une réponse. Donc, il y a une initiative de mission de Jésus pour sa vie. Et le Saint-Esprit qui, dans l'amour du Père, redonne la vie au Fils. Eh bien, c'est cet ordre-là qui est défini dans Éphésiens. En disant, si l'homme, si le mari, il a compris sa mission, c'est qu'il doit donner sa vie. Et si les maris ne donnent pas leur vie pour leur femme, eh bien, ils ne répondent pas à l'ordre de Dieu, c'est tout. Ils ne répondent pas à l'ordre universel que Dieu a prévu pour le mariage. Voyez, c'est pour ça que l'homme doit donner sa vie. C'est lui qui a l'initiative. Il n'a pas à attendre que sa femme fasse quoi que ce soit, etc. C'est lui qui doit donner sa vie, point barre. Hein, comme Jésus a donné sa vie. Et la femme répond. Elle répond parce qu'elle est tellement aimée qu'elle voit que son mari se donne complètement pour elle, qu'il répond. Donc c'est la réponse. Voyez-vous, le Saint-Esprit il répond à l'amour que Jésus a donné pour. Et la Bible dit que le tombeau ne pouvait pas le garder, ne pouvait pas le garder dans la mort. Dieu a envoyé son esprit et l'esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, de manière à ce qu'il y ait une boucle qui se forme entre celui qui donne sa vie et celui qui la reçoit. Voyez-vous ? Et là, c'est l'amour. C'est pas égoïste. C'est un amour qui se donne et qui reçoit. Et donc, la femme a ce rôle de réponse. Voyez-vous ? Or, si la femme veut prendre la place du mari, bon, bah, déjà, elle n'est pas faite pour ça. Dieu ne lui demande pas ça. Mais elle aura perdu cette féminité qui est justement de répondre, un peu comme une fleur qui s'ouvre à l'amour qu'elle reçoit. Voyez-vous ? Et quand le mari, non, bien sûr, je parle d'un mariage chrétien, ne se repent pas quand il fait des choses qui ne sont pas bien à sa femme, eh bien la femme ne peut pas répondre. Hein ? Donc la repentance, le pardon est à la base dans la société déchue que nous vivons. Bien sûr, quand on sera avec le Seigneur, tout ça sera fini. On n'aura plus, le péché ne pourra plus agir sur notre vie. Mais aujourd'hui, il faut que bien le mari demande pardon, et il s'humilie pour que justement l'ordre que Dieu a prévu, eh bien, puisse se réaliser. Alors vous avez Satan qui ne pense qu'à une chose, c'est de détruire tout ce que Dieu a fait. Ça, c'est son truc, parce qu'il est vexé que Dieu lui ait laissé sa place, hein, parce que en tant qu'ange, c'était l'être le plus extraordinaire que Dieu a créé dans la création, et lui s'est mis en tête de prendre la place de Dieu. Voilà, c'était ça. Et donc, Dieu n'a pas permis, parce qu'en plus, vous imaginez, si Satan régnait sur nous, voilà, lui, il a volé. Voilà, c'est tout. Alors, vous imaginez un monde comme ça. Voilà. Donc, Dieu a résisté, il a dit non, tu ne seras plus dans ma présence, tu t'éloignes de ma présence, parce que ce que je veux sur l'amour, sur la terre, c'est l'amour. Ce que je veux, c'est une réconciliation, c'est une compréhension, c'est quelque chose qui fasse du bien à l'être humain. Voyez, et donc, il l'a banni, mais l'homme qui ne comprend pas ces réalités spirituelles, eh bien, s'il ne demande pas pardon sur tous les échecs qu'il fait, eh bien, il se met sous la coupe de Satan. Et vous avez un passage, alors qui est aussi difficile à expliquer, mais qui l'est plus facilement quand on comprend ce symbolisme, hein, qu'on cherche. Il faut pas s'arrêter, vous voyez, à quelque chose qui ne colle pas. Il faut que ça colle parfaitement. Une fois que ça colle parfaitement, eh bien, vous avez l'explication parfaite. Dans 2 Timothée 2:15, quand il est dit que la femme se taise dans l'Église, c'est une mauvaise traduction. C'est des gens qui n'ont pas compris le symbole et donc ils sont pas en phase. En fait, c'est pas ça. L'apôtre Paul dit que je ne veux pas que les femmes enseignent cette hérésie gnostique dans l'Église. Parce qu'à l'époque, il y avait les gnostiques. Et aujourd'hui, ça revient au galop, le gnosticisme. C'est-à-dire la connaissance secrète. Une connaissance secrète. La connaissance secrète, c'est de prendre la Genèse et de lire Genèse 2, où il est dit que pour faire la femme, Dieu a endormi l'homme. Et il a tiré la femme de son côté. Ce n'est pas une côte, hein, c'est de son côté. C'est-à-dire vis-à-vis. Il ne l'a pas tiré sous ses pieds, il l'a tiré de son côté. Donc c'est un vis-à-vis. Mais cette femme avait un rôle particulier, c'est justement de permettre l'amour, de permettre l'échange, hein, de permettre la réponse à l'amour du mari. Eh bien, les gnostiques, par exemple, ceux qui sont opposés à la parole de Dieu, ceux qui sont rebelles, ils expliquent ça autrement. Ils ont dit, Dieu a créé d'abord la femme et après l'homme. Ouais, c'est pour ça l'apôtre Paul dit, mais arrêtez ces enseignements absurdes de dire que que la femme est avant l'homme. Mais pour eux, ils ont l'explication. Ils disent, mais oui, parce que c'est la femme qui a ouvert les yeux à l'homme. Parce qu'il a compris qu'il y a une connaissance, qu'on est divin, et qu'il suffit de manifester cette divinité en nous. C'est le fameux gnosticisme avec l'étincelle divine en nous, hein, qui aujourd'hui, dans le Nouvel Âge, est répandu, qui se répand comme une traînée de poudre. Ça, c'est une hérésie totale, parce que ça va à l'encontre du plan de Dieu, de l'ordre de Dieu. Dieu n'a pas demandé à la femme de se donner à l'homme, Dieu a demandé à l'homme de se donner à la femme. Et si la femme veut être avant l'homme, eh bien, elle est dans la rébellion, et on voit ça avec le féminisme, hein, le féminisme, qui est de pousser les choses dans une direction contraire à celle que Dieu a voulu, c'est pourquoi, en effet, hein, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de se donner. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de prendre sur lui-même et de livrer sa vie sur l'autel. Il n'a pas donné à sa femme. Il a donné à la femme le pouvoir de répondre à cet amour, de répondre. Et là, je vous renvoie au livre de Léon Payne qui explique beaucoup mieux que moi toute cette problématique et la crise de la masculinité. Aujourd'hui, la société est en crise avec la masculinité. Alors, je reviens au verset 10 pour l'expliquer de manière adaptée, correctement. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, pourquoi les anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Il y a 103 fois que le terme exousia, autorité, est utilisé dans la Bible. Il n'y a qu'une seule fois sur les 103 où l'interprétation va dans le sens où le sujet n'est pas dans la phrase. Je m'explique. Quand Jésus rencontre le centenier romain, le centenier romain vient vers lui en disant, voilà, mon serviteur est malade, est-ce que tu peux le guérir? Tu viens chez moi, je sais que tu peux le guérir, tu guéris tous les malades, tu viens chez moi. Et Jésus dit non, je viens pas chez toi. Et le centenier dit, bah, c'est vrai, t'as pas besoin de venir chez moi, il suffit juste d'une parole et mon serviteur sera guéri. Il dit, ah, chouette, c'est incroyable ça. Et Jésus se tourne vers ses disciples en disant, voyez là, ce païen là, romain, qui n'est pas du tout juif, eh bien, j'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël que par ce centenier-là. Et qu'est-ce qu'il a compris, le centenier? Il a simplement compris le fait que dans l'armée, lui, il a un chef et il a des subordonnés. Et quand il reçoit un ordre du chef, eh bien, il le transmet. Quand le chef dit, bah, on va à tel endroit, parce que voilà, il y a l'ennemi qui est là-bas, on va à tel endroit, donc tu prépares tes troupes, etc. Mais il ne discute pas, il le renvoie. Ce qui fait qu'il est sous l'autorité de celui qui prend la décision et qui lui sait pourquoi il dit ça. Donc il est en position de protection, il est en position de victoire si le chef voilà, a bien calculé sa stratégie pour gagner. Bien, voilà, mais avec Dieu, on sait qu'on est en victoire par rapport à Satan. Voilà. Donc la comparaison est vite faite. Eh bien, à cet endroit-là, exousia se réfère à Jésus, se réfère pas au centenier. Or, toutes les autres fois, ça se réfère toujours au sujet. Par exemple, je prends l'exemple. Quand il est dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. En fait, la vraie interprétation, c'est que c'est l'autorité de la femme. Là, ça parle de l'autorité de la femme. La femme a une autorité. Et c'est quoi cette autorité-là? Bah, il suffit de prendre les versets 7 et 8 qui précèdent. Il est dit que Toute femme, verset 5, pardon, enfin de 5 à 7. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est-à-dire qu'elle a l'autorité de prier et de prophétiser. Incroyable. Il y a des églises qui interdisent à la femme de prier, de prophétiser dans l'assemblée. Là, ça veut dire que la femme a l'autorité de prier et de prophétiser dans l'église, à condition qu'elle respecte la soumission à l'homme. Et comme je disais, c'est une soumission qui n'est pas servile, c'est une soumission d'amour. Mais c'est simplement qu'elle ne cherche pas à arracher d'être égale avec l'homme. Voyez-vous ? Jésus, en tant que fils de Dieu, n'a pas cherché à arracher d'être égale à Dieu. Oui. Le principe de soumission, bon, c'est un autre message que j'aborde pas ici, entre soumission et obéissance. Hein, on peut désobéir en étant soumis. Mais la soumission, c'est une attitude. Quand on a l'attitude de reconnaître qu'il y a un chef, eh bien, on peut lui désobéir s'il nous demande des choses totalement folles et contraires à Dieu. Mais on a une soumission, on a un respect. Et c'est pour ça que l'apôtre dit que les femmes respectent leur mari. Parce qu'il y a un respect. Respect à l'autorité. Mais elle-même a une autorité. L'autorité de prier, de prophétiser. À condition qu'elle ait une marque de l'autorité. Alors, les femmes qui n'avaient pas le voile à l'époque, ça veut dire qu'elles étaient rebelles. Alors, bien sûr, on ne demande pas des rebelles de prier, de prophétiser dans l'église. Vous voyez, le pasteur a le droit de les reprendre. Okay, bon, à l'époque, c'était les cheveux. Aujourd'hui, c'est les bagues. Il y en a qui enlèvent les bagues, surtout en été, pour pouvoir avoir d'autres relations. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, moi, je ne regarde pas vos bagues, mais je vous connais. Mais si c'est une église de 3000, là, j'aurais un problème avec... Voilà. Les personnes rebelles, effectivement, il n'est pas question de leur donner la parole dans l'Église. Parce que, par nature, elles vont amener la destruction, elles vont amener la distorsion dans l'Église. Et c'est là qu'il faut faire attention. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout les cheveux qui sont la marque, le symbolisme. Alors, l'interprétation traditionnelle, c'est le contexte. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur elle la marque d'autorité. Le contexte, c'est l'homme, bien sûr, c'est le mari, puisqu'on parle du mari précédemment. Mais les deux sont vrais, en l'occurrence. Sauf que le symbole n'est pas le même. Un symbole traditionnel, pour dire que c'est le mari qui est l'autorité, eh bien, c'est le symbole de l'ordre social. Alors que le voile, eh bien, c'est le symbole du droit de la femme. Donc la femme a le droit de prier et de prophétiser. Donc les deux sont vrais en l'occurrence, mais on oublie souvent le fait que la femme a le droit et même voilà, le devoir de prier, de prophétiser. Ce n'est pas du tout contraire à l'ordre que Dieu établit dans l'Église. Alors les anges, alors je ne sais pas si c'est les anges déchus ou les anges de Dieu. En tout cas, il y en a qui mettent le voile pour les anges, mais les anges, ils sont pas dans la sexualité. Hein. C'est simplement la rébellion. Les anges, ils connaissent les gens qui sont dans la rébellion. Et ils utilisent la rébellion pour détruire l'Église. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel, l'esprit de Sémiramis, l'esprit d'Hérodiade, etc., qui étaient dans des configurations de rébellion. Donc tout ça, ça s'explique. C'est du combat spirituel et on a longuement parlé de ça dans le torrent qui purifie ou même dans le ministère de la maison d'Élie. Voilà, donc le voile est un symbole à l'époque de Paul. Aujourd'hui, c'est l'alliance qui est un symbole de la soumission dans le cadre du mariage. Et voilà, aujourd'hui, on devrait traduire ça dans la traduction... Comme Kuhn le traduit dynamique, on appelle ça traduction dynamique, c'est-à-dire qu'on tient compte voilà, du contexte. On va dire que la femme porte la marque de l'autorité dont elle dépend en ayant l'alliance de mariage, l'alliance qui la lie. Vous avez votre alliance, Peter ? Voilà, montrez-la. Non ? Ah ! Oh là là ! Oh là là, je suis bien tombé là. Je l'ai pas fait exprès. Hein. Wow. Je te convoque à la fin du culte. Voilà. Bon, ça reste un symbole, hein. Ça reste un symbole. Voilà. Mais voilà, vous voyez, je crois qu'il faut l'intelligence pour bien comprendre la parole et ne pas s'attacher. C'est la réalité qui compte. C'est vrai qu'un cœur rebelle, on ne le voit pas du premier coup. On le voit au bout d'un certain temps, hein, la rébellion. Alors, on a tous de la rébellion aussi, d'ailleurs. Mais quand il y a une rébellion institutionnelle, c'est-à-dire une personne qui veut détruire, et je sais de quoi je parle, j'en ai connu, ah ben, petit à petit, vous le voyez. Vous voyez que le manche, il va toujours à droite ou à gauche, mais tiens, le manche, il bouge, quoi. Vous avez l'autorité, mais le manche, il part à droite ou à gauche. Il dit, tiens, comment ça se fait? Le manche, il va, hein, je l'ai mis là. Et puis là, on va vers le sud, et là, on va vers l'ouest, là. Il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, la rébellion, quand vous êtes en autorité, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Et après, vous cherchez, vous trouvez qui, dévie le manche, quoi. Et là, bah, il faut exercer la discipline. C'est le rôle de l'autorité, c'est d'exercer la discipline, sinon il n'a pas d'autorité. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais rentrer dans des détails. Voilà. Je pourrais vous donner des détails importants sur l'ordre du culte, etc. Mais là, je n'ai pas le temps. Et je vais m'arrêter là pour montrer que, vous voyez, l'autorité, c'est le droit de commander et d'être obéi. Mais il y a une responsabilité qui s'attache à ce droit. Et cette responsabilité, l'homme, il faut vraiment prier pour les hommes, prier pour les maris, parce que quand ils sont à cette place, et bien sûr, je ne parle pas de l'infidélité, hein, un homme doit être fidèle plus que la femme. Plus que la femme. Parce qu'il représente Christ. Est-ce que Christ est infidèle à l'Église? Vous voyez? On ne peut pas l'imaginer. Christ a donné sa vie à l'Église. Et il a dit, je vous accompagnerai tous les jours jusqu'à la fin. Je vous tiens dans ma main. Voyez. Donc la fidélité est absolument capitale. On appelle toujours un mariage à l'entrée. Le mari m'a dit, surtout, en tant que pasteur, là, tu me demandes pas d'être fidèle. Je dis, mais attends. Même le maire, il demande d'être fidèle, quoi. Ben non, j'avais interdiction d'évoquer la fidélité. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Oui, mais on arrive à des choses, vous dites, sur quelle planète on vit, quoi. Des chrétiens, engagés, hein, en plus. Bon, je sais pas, il y a une mouche qui l'a piqué, là, mais bon, c'était chaud. Hein. Non, l'homme doit être fidèle, plus que la femme. Et s'il est fidèle, eh bien la femme va être fidèle. Mais c'est quoi la difficulté de l'homme? C'est justement la fidélité. C'est pour ça que Dieu lui demande d'être fidèle. Par sa grâce, il peut l'être. Par sa grâce. Naturellement, non. Par sa grâce. Amen. Et du coup, la femme a encore beaucoup plus de révérence, de respect de son mari. Quand elle le voit agir de cette manière, bon, s'il est infidèle, bon, il a toujours la repentance. Hein. Mais la repentance. Mais à condition de ne pas commencer toutes les 5 minutes. Hein. Voilà. Il faut changer de vie. Il faut transformer sa vie. Amen. Voilà. Vous voyez, on pourrait faire beaucoup de développement là-dessus. Mais l'ordre de Dieu, c'est la hiérarchie de l'autorité et le pouvoir de remplir la mission dans laquelle chacun se trouve. La femme est réponse, l'homme initiative. Il doit donner sa vie. Et ainsi, eh bien, l'ordre que Dieu a prévu peut fonctionner. On n'a pas besoin de loi à l'Assemblée nationale pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voyez. Nous, on a la loi de Dieu, on a l'ordre de Dieu, on a l'ordre créationnel. Et quand les choses sont bien en place, ben les choses fonctionnent. Amen. Et la femme peut être, qui était nature plus faible, parce que justement, elle doit amener cette convivialité dans le couple, dans la maison, etc. Il faut qu'elle soit en sécurité. Il faut qu'elle soit absolument sûre de son mari, vous voyez, c'est ça. Donc c'est au mari d'engager ce... Et du coup, la responsabilité de la femme aussi, c'est de prier et de prophétiser dans l'Église. Et là, cette autorité-là, à condition qu'elle soit soumise à l'autorité et qu'elle accepte d'être reprise. Voilà. Je sais que Pierre Truchel, un jour, il a vu débarquer chez lui des gens de la commission d'inspection... d'inspection des taxes et tout ça. Il a eu 4 ans de galère à fouiller tous ces trucs alors qu'il n'avait rien fait. C'est parce qu'une femme prophétisait n'importe quoi, elle l'a repris dans l'église et elle s'est vengée. Et elle a raconté n'importe quoi. Vous voyez, ça c'est de la rébellion, ça c'est de la destruction. Ça, c'est quelqu'un qui veut détruire l'Église. Eh bien, ça, il ne faut pas que ce soit le cas. Parce que l'Église doit être un havre de paix, un havre où chacun se sente à l'aise, chacun puisse vivre dans la liberté, chacun puisse vivre dans sa destinée, puisse évoluer dans sa destinée. Et ça, c'est les hommes qui doivent le manifester. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur.